Le magazine des Nations Unies.
Bonjour, chers auditeurs, bienvenue à ce magazine des Nations Unies. Tout de suite, les titres. Modernisation de la force de la MONUSCO afin de la rendre plus flexible, la réinsertion d'anciens combattants, les élections, ce sont là, entre autres, les préoccupations de Martin Kobler en rapport avec l'extension du mandat de la MONUSCO pour la période 2014-2015. Il a expliqué au Conseil de sécurité les détails dans l'actualité de la semaine. Près de 312 000 cas de paludisme ont été enregistrés en deux mois dans les zones à fort mouvement de population et à accès difficile au Katanga, information donnée par l'Organisation mondiale de la santé la semaine dernière. Enfin, comme invité, Jean-Pierre et Lali Coco, vous recevez.
Nous recevons Mme Isabelle Tombé, la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. Vous savez, Mila, que le pays qui entend partage le français, ils sont 77 au total dans le monde. Ce pays donc célèbre le 20 mars de chaque année la journée internationale de la francophonie. Avec notre invité, nous allons nous entretenir sur la portée du thème de cette année et surtout de la succession de l'actuel secrétaire général de l'OIF.
Merci Jean-Pierre et à tout à l'heure.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Moderniser la force tunisienne, la rendre plus flexible et étendre son déploiement géographique, notamment en Ituri, dans la province orientale et au Katanga, telle est la nouvelle vision de la MONUSCO pour 2014-2015. C'est ce qu'a expliqué Martin Kobler la semaine dernière devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de la MONUSCO a fait cette restitution mercredi à la presse depuis Goma au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies.
L'exposé de Martin Kobler devant le Conseil de sécurité s'inscrit dans le cadre de l'extension du mandat de la MONUSCO qui expire le 31 mars prochain. Pour le chef de la MONUSCO, il faut allier au pilier militaire d'autres préoccupations du moment, la problématique de la réintégration des ex-combattants ainsi que les échéances électorales de Martin Kobler.
Il faut progresser maintenant si on aura des premières élections locales au début de l'année prochaine. Il faut commencer les préparations maintenant aussi avec les bailleurs. Le DDR, c'est quelque chose qui doit marcher plus vite entre les bailleurs et le gouvernement parce que c'est très important. Si on a des actions militaires, il faut avoir le suivi aussi. Quoi faire? Qu'est-ce que nous avons à offrir aux ex-combattants?
Par ailleurs, le chef de la MONUSCO s'est dit étonné des attaques dans la presse ce mercredi contre la mission des Nations Unies en RDC et contre le chef de la section des droits de l'homme au sujet des rapports sur la lutte contre l'impunité des violences sexuelles au Congo démocratique, un rapport qui sera publié prochainement. Suivez sa réaction.
Les attaques contre la MONUSCO, les attaques contre les droits de l'homme ici, c'est une attaque contre les Nations Unies. Je renforce ma position ici encore une fois, avec toute clarté. On a une politique de tolérance zéro en ce qui concerne les crimes sexuels et aussi les autres sujets.
Nous sommes ici pour servir le peuple congolais conjointement avec le gouvernement, a conclu Martin Kobler.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Il n'y a pas que les droits civils et politiques à promouvoir, il y a aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Un atelier sur le monitoring de ces droits humains s'est tenu du 11 au 13 mars dernier ici à Kinshasa. Atelier organisé par le BCIDH, Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Raphaël Rémyo, fils, coordonnateur de la task force du BCIDH sur les droits économiques, sociaux et culturels. On parle dans cette émission, il répond aux questions d'Honoré Missinga Kanala.
Raphaël Rémyo, fils, bonjour.
Bonjour à vous.
Entendez-vous par droits économiques, sociaux et culturels?
Les droits économiques, sociaux et culturels, c'est les droits de l'homme. C'est ce qu'on appelle la deuxième génération de droits de l'homme, après les droits civils et politiques. Et puis, il y a une autre catégorie qu'on appelle les droits collectifs. C'est des droits de créance. C'est le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit aux conditions de vie suffisantes, le droit au logement, le droit à l'alimentation. Donc, vous comprenez que c'est les droits basiques de tous les citoyens dans une société.
Dans une société comme celle de la RDC, quels peuvent être les indicateurs des droits économiques, sociaux et culturels?
Nous avons globalement trois sortes d'indicateurs dans cette matière-là. Nous avons ce qu'on appelle les indicateurs structurels. Donc c'est le cadre juridique qui est pris par le pays pour garantir ses droits. En RDC, c'est l'exemple de la Constitution. qui garantit tous ces droits-là économiques, sociaux et culturels. Maintenant, vous avez également une seconde catégorie d'indicateurs qu'on appelle les indicateurs processuels, c'est-à-dire que quand il existe une loi ou une politique comme indicateur structurel, l'indicateur processuel serait de mettre en œuvre ce droit. Donc, de construire, par exemple, si on parle du droit à la santé, de construire des hôpitaux, de former des médecins et des techniciens de laboratoire, de mener des campagnes de sensibilisation, etc. Et vous avez une troisième catégorie d'indicateurs qu'on appelle les indicateurs de résultats. Donc, c'est de voir si cette politique a produit des effets positifs ou négatifs. Et en cas d'échec, voir en quelle mesure on peut reformuler les politiques ou alors revoir le processus dans lequel on les a mis en œuvre pour pouvoir rectifier le tir et puis avancer dans la bonne direction.
Raphaël René Yorosis, pourquoi un atelier sur ces droits maintenant en RDC?
Mais le bureau conjoint aux droits de l'homme s'occupe des droits de l'homme, donc s'occupe du monitoring et du reporting des droits de l'homme comme mission essentielle. Mais le contexte de la RDC, depuis la création de la mission au Congo, a fait qu'il y a eu un focus qui était beaucoup plus porté sur les droits civils et politiques par rapport aux conséquences de la guerre. Et donc aujourd'hui également, quand vous parcourez la RDC, vous vous rendez compte que les gens ont des problèmes de santé, sont des problèmes de travail, et des problèmes d'éducation des enfants, des problèmes de logement. Donc c'est des droits qui sont importants. Il est important d'en parler pour que les gens sachent que nous défendons au niveau du bureau conjoint ces droits économiques, sociaux et culturels au même titre que les droits civils et politiques. Que ce n'est pas des droits à part, ce n'est pas des droits oubliés, c'est des droits de l'homme qui sont essentiels, basiques et qui sont extrêmement importants dans une société.
Quels sont les objectifs que le bureau conjoint s'est fixé en organisant cet atelier?
L'objectif principal, c'est de vulgariser cette notion de droit économique, social et culturel. Nous nous sommes aperçus que non seulement nous, au sein du bureau, on avait porté l'attention nécessaire à ces droits, mais que même les ONG, le droit de l'homme, n'étaient pas outillées sur cette question. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir outiller les ONG à travers tous les thèmes qui sont développés pour qu'elles soient à même de pouvoir faire le monitoring de ces droits, de faire des rapports sur ces droits, de faire des plaidoyers sur cette catégorie de droits, d'ouvrir un dialogue constructif avec les autorités par rapport à la promotion, par rapport au respect de ces droits économiques, sociaux et culturels.
Vous avez également parlé des obligations spécifiques des États. Que peut-on retenir à ce propos?
C'est important que nous revenions sur certaines obligations. L'État a trois obligations fondamentales en matière de droits de l'homme. L'obligation de respecter, de protéger, de mettre en œuvre. Mais en matière de droits économiques, sociaux et culturels, vous avez ce qu'on appelle des obligations immédiates et des obligations de réalisation progressive. C'est important de le signaler également. C'est aussi important de signaler que dans cette matière de droits économiques, sociaux et culturels, l'État a l'obligation de respecter ce qu'on appelle les obligations fondamentales minimum. C'est-à-dire que l'État s'engage à agir et doit prendre des mesures progressives au jour le jour, étape par étape, pour faire respecter le minimum de ces droits économiques, sociaux et culturels. Quand vous lisez le pacte relatif à ce droit, vous vous rendez compte qu'on tient compte des difficultés des États à pouvoir garantir la réalisation de tous ces droits. C'est pour cela que c'est des droits d'application progressive en fonction des ressources dont dispose l'État. Mais en même temps, ça ne suffit pas que l'État va se croiser les bras et ne rien faire en évoquant le manque de moyens. Non, il s'agit de faire un tout petit peu chaque jour de manière à avancer, n'est-ce pas, dans la voie de la réalisation des droits au fur et à mesure que la société évolue.
Et par rapport à ces obligations, on peut intenter une action judiciaire contre l'État en cas de violation des droits économiques et sociaux.
Mais il s'agit de droits garantis par la Constitution. Le droit au logement est garanti par la Constitution. Le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à un niveau de vie suffisant, c'est garanti par la Constitution. Le droit à l'alimentation, c'est garanti par la Constitution. Donc il s'agit de voir ici, de réfléchir avec les partenaires de la société civile et des ONG, dans quelle mesure on peut saisir la Constitution au non-respect par les États des obligations contenues dans la norme suprême qu'est la Constitution. Donc il s'agit des obligations qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont là depuis trop longtemps et que l'État doit pouvoir respecter.
Raphaël Renéo, dernière question, en dehors de cet atelier, qu'est-ce que le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme envisage de faire pour la défense et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels en République démocratique du Congo?
Comme je l'ai dit déjà, nous procédons à ces sessions d'échange et de renforcement de capacités de la société civile des ONG. Nous avons une demande formelle du gouvernement du Nord Kivu pour former les ministres provinciaux et le Parlement provincial par rapport à ces droits. Nous attendons des demandes similaires du Sud Kivu. Le Katanga a également émis le vœu de voir former les autorités provinciales par rapport à ces droits. Je pense que la question est celle-là aujourd'hui. Je pense qu'on prend la mesure de la situation et que tout le monde se rend compte que c'est le droit basique du citoyen normal et qu'il est important de penser à les réaliser. Il est important de penser au droit au travail, il est important de penser au droit au salaire, il est important de penser au droit à la santé, au droit à l'éducation, au droit au niveau de vie suffisant du Congolais. C'est important de penser à toutes ces questions. Je pense que les autorités en sont conscientes. Donc il est question aujourd'hui que le citoyen soit mis dans une logique de ce que nous appelons l'approche fondée sur les droits de l'homme. Donc que les citoyens soient conscients de leurs droits et que les autorités également soient conscientes de leurs obligations et qu'elles soient amenées en fonction des moyens qu'elles ont à pouvoir les respecter.
Raphaël René Yorofis, merci.
Nos nouvelles en bref à présent, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, était la semaine dernière en RDC. Elle a rencontré la société civile du Nord Kivu à Goma le mardi, faisant son propre bilan lors de cette visite qui tombe une année après sa nomination. L'émissaire des Nations Unies s'est félicité de la promulgation par le gouvernement congolais de la loi d'amnistie, du démantèlement GM23 et de la mise en place du mécanisme de suivi de l'accord cadre. La société civile a pour sa part insisté pour que Mary Robinson use de son influence afin que les auteurs de crimes graves ne puissent pas bénéficier de la loi de l'amnistie. Autre nouvelle, au Kasaï oriental, près de 3000 familles avec enfants malnutris ont reçu plus de 33 tonnes de la FAO, de séances de qualité, dans le territoire de Lovela. En mars, des foires aux semences organisées dans ce territoire du 9 au 16 mars dernier. Les semences sont constituées pour 50% de céréales, riz et maïs, et pour 50 autres de légumineuses, niébés ou soja. Enfin, éducation, bientôt une nouvelle école secondaire à Goma. Les travaux de construction des bâtiments de l'Institut d'ICESPI ont été lancés mercredi dernier par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Makar Mwangu. Les représentants de l'UNESCO et de l'UNICEF en RDC étaient également présents. L'UNESCO a initié ce projet avec le concours de l'UNICEF et le financement du gouvernement japonais.
Magazine des Nations Unies, Jean-Louis.
Le 20 mars dernier, les pays partageant en commun le français ont célébré la journée internationale de la francophonie sous le thème « Francophonie et jeunes talents ». La RDC, un des pays membres de cette organisation, en assume la présidence depuis le 14e sommet des chefs d'État tenu en octobre 2012 à Kinshasa. Quel sens donner au thème de cette journée? Quelles sont les réalisations de l'OIF en RDC? Et quelles sont les ambitions de ce pays au sein de cette instance internationale? Isabelle Tchombé, représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, est notre invitée. Elle répond à toutes ces questions dans un entretien avec Jean-Pierre Elali Coco.
Madame Isabelle Tchombé, bonjour.
Bonjour.
C'est 20 mars, on célèbre la francophonie et le thème retenu cette année, c'est francophonie et jeunes talents. Que vous inspire ce thème, madame?
Cette année, notre organisation a voulu mettre en exergue la jeunesse parce que cette jeunesse représente l'avenir de la francophonie. Vous savez que la francophonie est un ensemble de pays qui ont le français en partage, mais pour avoir le français en partage, il faut des individus pour le parler. Et pour parler cette langue, donc il faut des peuples. Et l'avenir des peuples réside dans la jeunesse. Et dans cette jeunesse, surtout notre jeunesse africaine, qui est en train de foisonner, mais qui va construire notre avenir, pour que notre avenir soit radieux, il faut qu'on puisse préparer cette jeunesse. Donc il faut pouvoir ouvrir les talents de cette jeunesse dans les différents domaines. Et bien sûr, avec un accent particulier sur l'éducation. Sans la scolarisation, sans l'éducation, il n'y a pas d'avenir. Il faut le savoir pour pouvoir intégrer le développement dans son quotidien.
Oui, c'est une jeunesse qui connaît beaucoup de problèmes, madame, en ce qui concerne notamment, vous l'avez dit, l'éducation. Et comment l'OIF peut-elle s'y prendre?
Il y a des programmes qui concernent l'éducation dans le cadre, par exemple, de l'appui aux maîtres, puisque l'éducation de base est extrêmement importante. Quand on a raté l'éducation de base, c'est très très difficile de rattraper le reste. Donc, on a mis un accent particulier sur la formation des maîtres.
Les enseignants.
Oui, les maîtres, ce sont les enseignants.
Oui.
Quand on parle des maîtres, on parle plutôt des maîtres d'école, donc du cycle primaire. Donc, il y a un programme d'appui, justement, pour que les maîtres ne soient jamais en déphasage avec les nouvelles technologies, avec l'évolution de l'enseignement. Et dans le cadre de la RDC, par exemple, nous avons inauguré avec le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, il y a 2 ans, dans le Katanga, le programme FADEN. C'est-à-dire que c'est un programme qui a permis déjà en RDC à plusieurs maîtres de la région du Katanga, à savoir qu'ils sont venus du fin fond des villages pour pouvoir bénéficier d'une formation continue et d'avoir des outils didactiques et d'avoir accès bien sûr à la nouvelle technologie, à savoir Internet. Alors il y a aussi un autre programme qui est le programme Élan, et nous sommes conscients en francophonie que un enfant n'apprend jamais mieux que quand il commence par la langue maternelle. Donc la RDC étant dans les pionniers de ce programme, pour pouvoir faire une expérience d'apprentissage de la langue et de l'écrit en commençant par sa langue maternelle. Donc on recommande cette expérience, il y a plusieurs pays qui ont commencé ce programme.
Parlons de la RDC, c'est dans quelle province? Vous avez parlé du Katanga pour les maîtres, les enseignants, et pour les langues. Ces programmes-là, c'est pour quelle province?
Eh bien, on va commencer en Lingala, en Swahili. La francophonie appuie, mais c'est le ministère qui dresse ce programme et qui choisit les cibles prioritaires ou expérimentales dans le pays.
Et le Lingala, c'est notamment à Kinshasa et dans la province de l'Équateur. Mm-hmm. Et le Swahili, c'est à l'est du pays.
Tout à fait.
Alors, madame, donc, les français, la langue officielle en RDC, mais le pays aussi a 4 langues nationales, vous l'avez dit, le Lingala, le Kikongo, le Swahili et le Kiluba. Fait pour l'OIF pour la promotion de ces langues nationales. Vous avez parlé un petit peu de ces programmes qui sont menés. Est-ce qu'il y a autre chose qui est menée dans ce sens pour la promotion des langues nationales?
Vous savez, à l'époque où il y avait eu cette city, l'accord global et inclusif a été traduit dans toutes les langues par l'OIF pour que effectivement toute la nation puisse avoir accès à cela. Il y a eu l'appui aussi à certains objets didactiques qui concernaient la CEI. Il y a le festival des langues et de l'écrit qui s'appelle le Festila, qui se passe chaque année ici en RDC. Il y a eu aussi le dictionnaire Sango Lingala, le Sango est parlé par les gens de Centrafrique et le Lingala est parlé chez nous, donc il y a aussi des ponts que l'on crée entre les différentes langues nationales.
Monsieur Abdou Diouf, qui est l'ancien président sénégalais et qui est l'actuel secrétaire général de l'OIF, il a annoncé son intention de ne pas briguer un 4e mandat à la tête de cette organisation en 2014, vous le savez, je crois. Et certains noms sont cités pour lui succéder. Alors, est-ce que la RDC ne pense pas à une éventuelle candidature, à la vôtre, par exemple?
Mais je dirais qu'il est extrêmement difficile de venir après le président Diouf. Le président Diouf a marqué cette francophonie pendant 12 ans. Il lui a donné un élan extraordinaire, une visibilité internationale qu'on n'aurait pas soupçonné. Aujourd'hui, la francophonie est consultée sur le plan international. Sa voix compte. On la retrouve au G20, on la retrouve dans des différentes organisations parastatales. Je dirais que cette voix singulière de la francophonie, Abdou Diouf a su l'incarner pendant 12 ans. Donc il va être très difficile de le remplacer. Il appartient aux pays francophones, et notamment à la RDC, puisque la RDC exerce la présidence du sommet de la francophonie juste au sommet de Dakar. Oui. Effectivement, Abdou Diouf passera le flambeau à une personnalité qu'on ne connaît pas encore lors de ce sommet-là. Mais le président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a la charge de conduire cette négociation pour arriver à un consensus.
C'est une opportunité pour lui de présenter une candidature de la RDC, et je pense notamment à vous, madame, parce que vous avez les atouts. Vous avez fait des études de lettres, vous êtes philosophe, vous êtes journaliste, et vous êtes ancien journaliste, je vais dire, et vous êtes aussi diplomate. Donc vous avez tous les atouts pour que votre candidature soit présentée au niveau de cette instance internationale.
Écoutez, je vous répondrai avec que, toute modestie, s'il est vrai que je puisse avoir une expérience, s'il est vrai qu'il y a un travail ou un background derrière moi, mais ceci appartient à la discrétion du chef de l'État. C'est au chef de l'État à choisir le candidat, si candidat de la RDC doit se présenter, mais c'est un travail qui demande beaucoup d'humilité, parce que représenter son pays à si haut niveau, on n'a pas droit à l'erreur. C'est aussi un travail qui permet, bien sûr, au pays d'avoir un rayonnement, mais je vous dis, c'est au chef de l'État à décider.
Oui, on espère qu'il pourra en décider. Bon, Madame Isabelle Tchombi, nous vous remercions de votre disponibilité.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Ilani.
Rendons-nous au Katanga pour notre nouvelle en province. Près de 312 000 cas de paludisme ont été enregistrés durant les deux premiers mois de l'année 2014. 363 personnes en sont mortes, selon l'OMS, cité dans le dernier bulletin du Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, publié mercredi dernier. Les zones de santé enregistrant un mouvement de population important sont les plus touchées, ainsi que celles touchées par la malnutrition et les épidémies de rougeole, de même que les zones riveraines et lacustres. Dans ces zones, l'accès est souvent difficile et le système sanitaire est délabré. Les détails avec Jean Gagnou.
Le dernier bulletin d'information de OCHA rapporte que l'accès dans ces zones est souvent difficile et le système sanitaire est délabré. Depuis octobre 2013, plusieurs structures de santé dans les zones de santé de Kilwa, Mitoa, Bamufunga et Peto n'ont pas fonctionné de façon optimale à cause de l'insécurité due aux incursions de Maïmaï. Le rapport enseigne aussi que le Katanga ne dispose pas d'un centre transfusionnel pour la prise en charge de l'anémie et du paludisme aigu. Le centre provincial de transfusion sanguine du Katanga est en rupture d'intrant depuis plusieurs années. Le responsable provincial du programme national de transfusion sanguine affirme pour sa part que son bureau dispose encore de beaucoup d'intrants. Si ces zones de santé étaient en rupture de stock en intrants transfusionnels, elle les aurait demandé à Phil Martelly. Et au programme national de lutte contre le paludisme, on indique qu'on est en train de confronter les données fournies par le dernier bulletin de OCHA avec celle que obtient la division provinciale de la santé avant de se prononcer. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Magazine de la Sauve-Unie. Portrait d'Isine.
Je m'appelle Mazola Catherine, je suis mariée à Monsieur Mayanji Adolf et je suis mère de 3 enfants, un garçon et 2 jeunes filles. Parlant de ma formation, j'ai étudié à l'école primaire au lycée Tchongeli. Ensuite, j'ai eu mon diplôme d'État au complexe scolaire Le Berkay. Quant à l'université, j'ai commencé à Kinshasa, à l'université protestante au Congo, en droit, et j'ai fini à l'UNILA. Déjà, j'ai quitté la famille pour aller étudier à Kinshasa, mais bon, ça ne me plaisait plus le milieu, donc j'ai préféré revenir auprès de ma famille. J'ai quitté Lubumbashi pour aller étudier à l'université protestante, parce qu'en fait, à un moment donné, on se disait que la formation dans les universités privées était bien meilleure que celle qui était donnée dans nos universités, notamment l'université de Lubumbashi, de Kinshasa, de Kisangani. Mais j'ai trouvé que c'était exactement la même chose, sauf que j'étais loin de mes parents et de la famille. Au sein de cette agence, à Monusco, je suis au département de la sûreté et de la sécurité, où j'ai plusieurs tâches, je l'avoue. Je suis à la Monusco depuis septembre 2005. Au quotidien, je remplis les tâches au GFM, Guard Force Manager, IBM Pass et certaines petites attributions au sein de l'administration, et voilà. En français facile, nous allons dire au quotidien, je dois m'assurer que tous les staffs, donc les personnels des Nations Unies, sont munis d'une carte des Nations Unies valide. Et c'est un travail qui demande d'être mis à jour tout le temps. Je dois imprimer leur carte déjà, je dois m'assurer que leur contrat est encore valide. Dans l'administration, je fais les rapports journaliers, je fais les rapports hebdomadaires, et ainsi que les rapports du mois qu'on appelle monthly report. Avant que je ne commence à la Monusco, j'étais dans un cabinet d'avocats, c'est là où j'ai commencé. Et bon, le destin en a voulu autrement, je me suis retrouvée à faire ce que je fais actuellement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis licenciée en droit et donc j'ai commencé dans un cabinet d'avocat, mais bon, les choses ont évolué telles que je me retrouve dans le département de la sûreté et de la sécurité où j'accomplis des tâches assez similaires au droit aussi. Et voilà. Parlons de mon temps libre, c'est assez difficile de combiner en même temps la vie de femme au foyer et la vie de femme travailleuse. Toujours que pour le week-end, ça passe assez vite. Hein. Aussitôt que le week-end est là, vous acclamez et puis c'est déjà demain lundi. Ce n'est pas toujours facile. Peut-être par rapport aux connaissances, aux amis, à la famille. J'ai le temps à consacrer à mes enfants, à mon mari, mais vraiment c'est difficile pour le reste de la communauté, les amis, les connaissances. On peut projeter d'aller rendre visite à quelqu'un, mais le week-end est passé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de le faire et on le projette pour la semaine prochaine. Parlons de mes préférences, en commençant par la musique, je dirais que j'aime toute musique douce déjà, quel que soit le genre, mais que ce soit une musique douce et reposante. Il y en a plusieurs. On peut prendre déjà Céline Dion, j'aime bien. Parlons du sport que j'aime, je parlerai bien du basket. À un moment donné, j'aimais bien le handball, mais bon, c'est passé beaucoup plus le basket. Dans mon école, non, j'ai pas participé à une équipe ou à un groupe donné, non. En ce qui concerne mes goûts culinaires, je dirais que j'aime bien manger à congolais. Makimba, fondue, viande, du riz, couscous, puisqu'on est congolais. Après l'agence, il y a deux options qui me tentent. Soit la première, soit c'est rentrer dans un cabinet d'avocat, reprendre où j'ai laissé. La seconde, c'est peut-être embrasser une carrière militaire, parce qu'il faut dire que c'est ce que j'ai toujours aimé. J'aime bien femme FRDC, mais dans la section droit. En ce qui concerne cette passion pour tout ce qui est métier sous l'uniforme, je pense que ça remonte à loin. C'est peut-être pas un hasard si je me suis retrouvée dans le département de la sûreté et de la sécurité. Ça a un côté un peu militaire, uniforme et tout ça, mais mon souhait le plus ardent a toujours été de rentrer servir sous le drapeau.
Magazine des Nations Unies, le sport aux Nations Unies.
La question ce dimanche porte sur la situation sécuritaire dans le Massissi au Nord Kivu en rapport avec les actions militaires engagées contre les groupes armés. La question est posée par une journaliste de la RTNC Goma et la réponse est du commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Jean Bayou.
Toujours dit pour la RTNC, la communauté de Massissi s'inquiéterait des actions actuelles de la MONUSCO. On dirait que la MONUSCO préparerait le retour de ceux qui avaient fui Massissi, raison pour laquelle ils se sont fait échapper leurs protecteurs qui affiliaient sur le groupe armé. Que disent de la MONUSCO?
Écoutez, les protecteurs des communautés ne peuvent pas être les groupes armés eux-mêmes. Il ne faut pas écouter, on va dire, ce message de soi-disant protection. Les chefs de groupes armés ont commis, on va dire, des violations des droits de l'homme. Ils recrutent des enfants soldats. Nous savons qu'ils le font encore parce que nous avons ces enfants soldats qui viennent recueillir dans nos bases pour être justement désarmés. La sécurité de toutes les populations du Massissi et de l'Est du Congo et du Congo, ils doivent être faites par les autorités de l'État. Et la MONUSCO est engagée avec détermination pour que, sous la contrainte, ou si possible, de manière volontaire, nous arrivions très rapidement à un désarmement et à une reddition des chefs de groupes armés. Je pense que les gens doivent être confiants dans ce processus dans lequel nous sommes fermement engagés, et je suis pratiquement sûr que dans un très proche avenir, nous verrons très rapidement des résultats encourageants.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capitaine.
À noter, dans vos carnets, mardi 25 mars, les femmes de la MONUSCO célèbrent la Journée internationale de la femme sur l'initiative du bureau gender de la mission Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en consolidant la paix et la justice pour le développement en RDC. C'est sous ce thème que le personnel féminin de la MONUSCO va célébrer cette journée avec pour slogan « L'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour tous ». Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je suis Mila Kinguini, j'étais à la présentation avec l'assistance technique de Sylvain Matoumou du côté de la régie. Julien Niamouini en a assuré la supervision, Jean-Pierre Elali, Coco, la coordination et Honoré Hussing a été sur portage. Vous pouvez réécouter cette émission à tout moment sur notre site www.radiookapi.net. Envoyez-nous vos questions, vos remarques ou vos suggestions par SMS ou en appelant à notre numéro le 082 30 76 630. 082 30 76 630. Vous pouvez aussi nous contacter sous forme de commentaires sur notre site internet en dessous de l'émission. Dernière option pour nous joindre, notre adresse mail macun@radiocapi.net. C'était un plaisir d'être des vôtres. À dimanche prochain. En attendant, passez une excellente journée dominicale. Thank you.